Gisèle Flax est notre invitée ce soir. Témoignage sur la Shoah, témoignage sur l'antisémitisme d'avant-guerre en Pologne et aux limites de l'Ukraine. Cette petite gamine qui a alors 4 ans, qui perd successivement trace de son père, puis qui perd ses proches, va survivre dans des conditions rocambolesques, en partie dans un ghetto, camp de travail, en partie enfouie quasiment sous terre avec des résistants juifs armés, avant de connaître un autre destin. Après la guerre, c'est se taire avant d'enfin retrouver la parole et de se dire que c'est ça la raison pour laquelle elle a survécu et pas les autres, c'est que le témoignage aujourd'hui lui en donne la force.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kackelbergs.
Bonsoir Gisèle Flax.
Bonsoir.
Gisèle Genia Flax, vous êtes née en Pologne, madame, oui. Et jusqu'à vos 4 ans, c'est-à-dire juste avant la guerre qui se déclare en 1939
oui.
En Pologne, jusqu'à vos 4 ans, ce que vous décrivez, c'est une vie remplie d'amour et de tendresse pour le peu de souvenirs que vous en avez.
Très peu, parce que mon papa m'a quitté en 1938 pour partir en France pour nous faire venir. Après son départ, on est allé habiter chez mes grands-parents maternels à Borislav.
Votre papa part pour la France parce qu'il sent que l'antisémitisme est déjà terrible en Pologne.
Tout à fait. Il criait « Juif, retourne en Palestine, sale juif ». Si, ça, on entendait régulièrement, surtout que mes grands-parents étaient très religieux. Donc, une fois vendredi soir et samedi, ils ne pouvaient rien faire. Donc, on devait s'adresser à des non-juifs.
Pour le respect, effectivement, du Shabbat.
Du Shabbat, oui.
Donc, c'est la séparation aussi avec votre père.
Oui.
Et puis, vous l'avez dit, c'est l'arrivée chez des grands-parents très religieux, très aimants, mais très religieux. Et
oui.
Ça, pour vous, c'est un grand changement parce que dans votre famille, maman et papa ne sont pas...
Pas du tout. Ma maman, on l'appelait la Goya, c'est-à-dire celle qui ne veut pas entendre parler de religion.
Malheureusement, pour vous, dès 1939, les choses se compliquent. Votre père n'a pas le temps de vous faire venir.
Non.
Et il travaille pourtant dur pour essayer de vous faire.
Oui. Lui qui était presque, c'est un mot peut-être trop grand, trop fort, il était seigneur presque, puisqu'il louait des terres à des paysans, on avait des moyens, il avait des chevaux. Et quand il est parti en France, la seule chose qu'il connaissait, c'était la terre. Donc, il a trouvé du travail chez des paysans. Et il dormait dans la grange.
Il n'aura donc pas le temps de vous faire venir.
Non.
Vous allez, vous, à partir de là, commencer à vivre l'horreur.
Tout à fait.
D'abord les rafles, et puis l'arrestation brutale de votre grand-père.
Oui, c'est-à-dire les Allemands réquisitionnaient les fourrures. Et malheureusement, mon grand-père, il a caché un manteau, une pelisse, comme on appelle, fourrée, et son chapeau du vendredi soir, qui était garni un petit peu de fourrure. Il devait partir avec sa femme. Alors ma maman a dit, je suis jeune, je vais me débrouiller et je rentrerai très vite. Elle a pris la place de sa maman, donc de ma grand-mère.
C'est la dernière fois que vous verrez...
C'est la dernière fois que je vois ma maman. En plus, comme les gestapistes, ils étaient à deux, s'éloigner avec ma maman, ma grand-mère me dit, va encore dire au revoir à ta maman. Et je cours vers ma maman, elle veut courir vers moi, et je ne sais pas si vous saviez, ils avaient des cravaches en cuir. Ils lui ont donné un coup avec cette cravache, elle a hurlé, moi j'ai attrapé peur, et voilà la dernière image de ma maman. Et je ne l'ai plus jamais revue.
Votre grand-mère ne s'en remettra pas.
Non.
Elle va tomber malade. Et vous avez le sentiment qu'elle ne veut plus lutter.
J'ai l'impression qu'elle ne veut plus lutter, non. Toute petite que j'étais, je m'en suis pas mal occupée. J'allais tous les jours chercher des sangsues. On chauffait le verre, on mettait les sangsues dans le verre et on posait sous le corps de mon grand-père.
C'était les traitements de l'époque, effectivement, pour tenter
Et alors, on se tenait main dans la main. et elle était très contente de m'avoir.
Vous direz dans ce livre « Sous terre pour survivre, parcours d'une enfant juive », Gisèle Flax, vous direz « Finalement, elle a eu, si on ose dire, oui, de la chance.
Chance.
Elle est morte et elle a eu droit à des funérailles furtives, mais vraies.
Oui, oui.
Là où probablement elle aurait été exterminée.
Tout de suite exécutée en tant que personne âgée et en plus malade.
À partir de là, par contre, pour vous, ça devient encore plus difficile parce que vous devez choisir chez qui vous allez aller.
Oui.
Vous
oui.
faites le choix de votre tante, Lucia, oui, la grande colère
de tante Esther.
Voilà, qui ne lui pardonne
pas. Qui ne
pas.
Me supportait pas, qui ne supportait pas ma mère.
Qui était la belle-sœur de votre maman.
Oui, oui, oui. Parce que son mari et ma maman étaient frères et sœurs. Et je n'ai jamais su pourquoi cette colère, cette méchanceté, moi je l'appelais la mégère. Tellement qu'elle était mauvaise avec moi.
Vous allez devoir entreprendre à partir de là une vie avec très très peu de moyens, très peu de choses, essayer oui. de vous cacher tout le temps.
Tout le temps.
Mais ça n'empêchera pas, à un certain moment là aussi, que le danger devienne grand et on finit par vous confier, si j'ose dire, à une femme.
Une Polonaise, soi-disant que c'était une très bonne amie de ma maman. Et comme ma tante Lucia ne savait pas où me cacher, elle a trouvé cette personne.
En se disant que dans une famille catholique polonaise, vous alliez passer inaperçu parce que vous êtes blonde.
Oui, mais elle avait une petite fille. Et c'est ça qui était le plus grave, parce que les enfants entre eux parlent. Donc la petite fille ne pouvait pas savoir que j'existais.
Donc vous deviez vous cacher tout le temps.
En Pologne, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais dans le temps, ça commençait à 7h du matin jusqu'à midi.
Pour l'école.
Pour l'école. Et à l'après-midi, elle était à la maison.
Et là, il fallait vous cacher.
Là, j'étais derrière une garde-robe en forme de triangle. Et on a enlevé le fond de la garde-robe que j'ai pu me mettre caché entre les vêtements.
À un moment donné, dans votre histoire, la chose peut paraître d'ailleurs complètement incroyable. On se dit que puisque vous ne pouvez plus vivre ça, et vous racontez, vous vous échappez,
oui,
vous allez errer,
oui,
vous allez voler ce que
oui.
vous pouvez comme légumes pour essayer de survivre.
Manger.
Vous êtes très 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 maigre. Il y a une forme de chance, c'est que vous êtes repéré par des hommes au
oui.
moment de votre errance, et là vous reconnaissez l'un de vos protecteurs d'avant.
D'avant. Oui.
Mais ces hommes ne peuvent pas non plus vous garder éternellement.
Ils ne peuvent pas. J'ai toujours eu la sensation qu'ils avaient toujours peur. C'était toujours des choses furtives qu'il fallait faire. Il fallait faire vite.
Et ça, c'est encore un peu plus incroyable. Gisèle Flax, ces hommes se disent que l'endroit où vous serez le mieux, c'est auprès de votre tante Lucia,
oui,
dans un camp de travail.
Dans un camp de travail.
Donc, c'est eux qui vous font rentrer dans le camp,
oui,
par-dessous la clôture.
Oui. Oui.
C'est incroyable.
C'était des fils barbelés, donc ils ont creusé un tout petit peu l'endroit, tout doucement, parce qu'il y avait un mirador, donc tout doucement je devais me glisser, c'était la nuit. Et là j'ai retrouvé tante Lucia, qui était cuisinière, une excellente cuisinière, c'est ça qui l'a sauvée. Elle était avec sa fille, qui avait 13 ans,
mais elle avait dit qu'ils en étaient plus.
Qu'elle avait 16 ans. Parce que jusqu'à 16 ans, on pouvait survivre. En dessous de là, vous étiez exécuté ou brûlé.
Ça semble incroyable, évidemment, de se dire que des gens ont pensé que vous seriez plus en sécurité dans un camp de travail des nazis, enfin, ou en tout cas dirigé par des collaborateurs.
Ah oui, oui. C'était un ghetto. Je l'ai visité en 2017. Il y a une plaque qui est marquée ghetto, hein. Oui, oui.
Et de là, vous nous racontez combien il faut changer souvent de cache. Vous êtes parfois entre les lits, vous êtes dans un faux plafond. À partir de là, vous allez transiter vers le camp des hommes, vers le coin des hommes.
Avant ça, j'ai été dans un endroit avec des personnes, dans un autre double plafond, où c'était des enfants et des personnes âgées. Et dans cette cachette, il y avait un couple qui avait un fils qui était capot. Et les Allemands savaient que les parents étaient dans le camp. Et ils ont dit que si tu dénonces, on sauvera tes parents. Sauf que la première chose qu'ils ont fait, ils ont abattu les parents et arrêté tous les autres.
Dont vous.
Donc moi, j'étais arrêtée aussi. Et c'était la première fois que je voyais des cadavres devant mes yeux, ça c'est quelque chose aussi de...
Vous avez quel âge à ce moment-là? 6 ans?
6 ans et demi. Je ne sais pas. Je ne savais ni lire ni écrire, donc je ne peux pas dire à quel moment, à quelle date. Je ne sais pas. Après ça, j'ai été cachée dans une espèce de cave, enfin un endroit où il y avait des bébés. Et là, on a tout exécuté. C'était l'horreur. C'est l'horreur de ma vie. C'est l'horreur de ma vie.
Vous allez être, je vais utiliser le mot, exfiltré. Un homme va vous glisser, vous êtes à ce point maigre.
Ah oui, oui, oui.
Va vous glisser dans un sac à dos.
Dos.
Avec des outils qui dépassent.
C'est ça.
Et ça permet de sortir du camp.
Oui, ils se sont bien mis
autour
pour que je ne sois pas trop remarquée, sans doute. Et je suis sortie comme ça du camp.
Parce qu'évidemment, il y a donc des commandos qui sortent du camp pour aller travailler. Sous le contrôle des Allemands. Et à partir de là, vous êtes pris en charge ?
Par des partisans. Je crois que ça devait...
Et des partisans juifs.
Juifs, peut-être des Polonais aussi. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas.
On peut dire que c'est à partir de là que vous allez survivre sous terre.
Voilà, oui.
Vous allez être caché sous terre avec d'autres.
Oui.
En permanence.
Oui, en permanence.
Mais en changeant souvent de lieu.
Trois fois j'ai changé. La première fois, on était beaucoup. La deuxième fois, un peu moins. Et la troisième fois, on était très peu.
On a le sentiment, en vous lisant, Gisèle Flachs, que à partir de là, vous vivez dans un terrier.
Tout à fait.
Comme des lapins.
Tout à fait, parce qu'on ne pouvait pas sortir, surtout en hiver. On ne pouvait pas laisser des traces. Et puis quand ça dégèle...
Mais parce qu'on rappelle que vous êtes en Pologne, il fait très froid.
Oh, je me rappelle quand j'étais toute petite, là où j'étais cachée avec la Polonaise, elle habitait dans la même maison qu'un de mes oncles. Et quand on faisait des promenades pour aller chez un membre de la famille... On marchait, j'avais mes pieds qui étaient gelés et on m'a mis tout de suite dans une bassine avec de la neige. Ça brûle, je hurlais de douleur, mais on m'a sauvé. C'est comme ça qu'on m'a sauvé.
C'est dire le froid.
Le froid qu'il y avait. Oui.
Froid, faim.
Oui, pas de médicaments. Il fallait trouver des astuces pour se soigner.
La première image que vous nous décrivez dans votre village au début de la guerre, ce sont des explosions, hein, des bombardements et des explosions.
Oui.
Ensuite, pour vous, la guerre, ça va plus être comme un animal traqué. C'est moins les bombardements que le fait d'être comme un animal traqué sous terre.
Les premiers bombardements, donc je pouvais avoir peut-être 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était l'arc-en-ciel, hein. C'était les couleurs, c'était la nuit. Tout le monde était en pyjama, en chemise de nuit. Il faisait beau, on criait la guerre, mais moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire la guerre pour moi. Moi j'étais contente parce que pour moi c'était comme une fête, hein. Je ne comprenais pas.
Par contre, vous allez, et vous
mais
le dites...
Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement.
Vous allez, à travers tous les épisodes que vous venez de nous raconter, Gisèle Flachs, vous allez quitter l'enfance très tôt.
Tout à fait.
Vous allez devoir mûrir immédiatement.
Tout à fait.
Ça signifie quoi à ce moment-là pour vous, mûrir ?
Mûrir, ça veut dire avoir tout le temps peur. Le moindre petit bruit, quelqu'un qui vous regarde, c'est la peur. C'est la peur.
C'est la mort, vous savez ce que c'est là ?
Ah oui, oui, oui. J'en ai vu dans la forêt aussi, la mort. Ça, j'ai vu. Dans le camp, j'ai vu la mort.
À plusieurs reprises dans ce livre, vous dites « Je regrette de ne pas connaître le nom, l'identité de celui qui m'a sorti du camp, de celui qui m'a sorti de tel piège. »
Ah oui.
Il y a des justes que vous ne connaissez pas.
Que je ne connais pas. C'est quelque chose que je ne peux pas exprimer, mais j'aurais voulu ne fût-ce que dire « merci ». Je ne peux pas le dire, je ne sais pas à qui le dire. Et c'est mon regret le plus cher que je ne peux pas le dire.
La guerre est longue, mais vous vous en sortez.
Oui.
Vous retrouverez d'ailleurs, vous apprendrez en tout cas le sort que votre papa et l'une de vos tantes a eu, qui elle va décéder en 47 suite à une maladie que l'on ne situe pas encore.
Non, je sais qu'elle était soignée à l'hôpital Saint-Louis à Paris en 1947, donc c'était après la guerre. Je l'ai vue. Je l'ai côtoyée tous les jours pendant... Je suis restée, je crois, à peu près 2 mois, 1 mois ou 2 à Paris. Je suis venue en Belgique, j'ai appris qu'elle est décédée.
Entre le moment où nous vous avons quitté sous terre et c'est arrivé à Paris, il y aura cette fin de guerre, cette libération. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'issue, à la fin de la guerre? D'abord, dans quel état êtes-vous?
D'abord, je suis avec cette tante Esther.
Celle qui vous déteste.
Qui me déteste. Et je crois que la communauté juive a fait qu'on a pu avoir un endroit pour vivre, mais qu'on devait se débrouiller pour la nourriture, on devait trouver un petit travail, je ne sais pas. La seule chose que je sais, que pendant, mais je ne sais pas pendant combien de temps, si c'était 6 mois, si c'était 1 an, je devais mendier. Et chaque jour, je devais rapporter quelque chose. Parce que si je ne rapportais pas, c'était des coups. Et dans cette période-là, j'avais une femme, une juive, qui avait un petit garçon, qui était tellement gentil avec moi. En hiver, la seule chose qu'elle pouvait me donner, c'est une boisson chaude. Et jusqu'à aujourd'hui, je regrette, j'ai volé les chaussures de son fils. C'était l'hiver, et j'avais des sandales. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai vu ses chaussures, je dis, c'est bon, c'est pour moi, je vais avoir plus chaud. J'ai volé ses chaussures. Elle les a mis, elle avait juste un feu continu. Elle les a mis pour sécher. Et ses chaussures étaient devant moi. Et c'était plus fort que moi, j'ai volé. J'ai volé ses chaussures. Je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Si je pouvais, ne fût-ce que retrouver son fils ou lui demander pardon.
La vie n'est donc pas du tout plus simple après la guerre.
Ah non, ça a duré à peu près 2 ans comme ça, puisqu'en 1947, j'ai retrouvé mon papa.
À partir du moment où vous retrouvez votre papa, Gisèle Flax, qu'est-ce qu'il vous demande? Comment se comporte-t-il? Parce que lui n'a forcément pas connaissance de tout ce qui vous est arrivé depuis son départ.
Absolument pas. C'est-à-dire
vous arrivez à lui raconter ce qui s'est passé?
Non. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. Je parle de ça depuis peut-être 15 ans. Parce que quand je disais que j'étais cachée dans la forêt, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça. Ils ne me croyaient pas. Et je l'entendais, des gens parler de ça. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Or, les historiens avaient connaissance du fait que ça avait existé. Mais vous êtes une des rares témoins.
Mais c'est vrai que qui était caché? C'était des personnes âgées et des enfants.
Les personnes âgées sont mortes.
Voilà.
Et les enfants comme vous se sont tus. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous taire, Gisèle Flax?
D'abord, j'avais difficile de parler. Je ne parlais pas le français déjà, d'abord, quand je suis venue. Et puis, j'étais chez des personnes qui n'ont pas connu ce que j'ai connu. Donc, j'avais l'impression que ça ne les intéressait pas. Ils ne m'ont jamais posé aucune question. Donc, je me suis tue.
Quand vous avez, comme femme, construit votre vie, votre couple, que vous avez eu enfants, petits-enfants, vous leur dédiez d'ailleurs votre livre aujourd'hui, il ne vous est pas venu à l'idée qu'il fallait que vous vous débarrassiez de ce fardeau, que vous parliez? Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que vos proches devaient savoir?
C'est pas dans le livre. Ben, je fais une petite parenthèse. J'ai dû me marier, j'ai eu mon fils, je me suis séparée et puis je me suis remariée avec un juif. Parce que le premier était un catholique. Avec mon second mari, comme il a vécu aussi la guerre, en nous deux, on se parlait.
Vous avez enfin pu partager.
On a partagé. Lui a partagé ses problèmes et moi, j'ai partagé. Mais c'était pas plus que ça.
Vos enfants, non.
Mon fils, il savait un petit peu, maintenant qu'il a 62 ans.
Maintenant, il sait.
Maintenant, il commence à connaître, à savoir, et vraiment, il est formidable. C'est ma plus belle chose que j'ai faite.
Comme beaucoup d'ailleurs de survivants juifs qui ont
c'est ma plus belle chose que
estimé
j'ai
que la victoire, c'était d'avoir des enfants et des petits-enfants. Oui. Gisèle Flax, vous dites aussi que, pour les raisons qu'on a expliquées, vous n'êtes pas née dans une famille croyante, vous n'avez pas, à travers la guerre, pu participer à cela. Même votre second mariage ne vous a pas amené à, à pratiquer, à comprendre et à investiguer la religion juive. Vous dites, il y a quelque chose qui me reste. Par exemple, et là on s'entretient d'ailleurs le jour de Yom Kippour,
Ça, c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est la religion, je le fais en souvenir des gens que j'ai vus prier, ces vieilles personnes que j'ai vues prier. Et je pense que c'était Rosh Hashanah. Je suis pas certaine. Et c'est en souvenir, parce que j'ai quand même resté un certain temps avec eux. Et ces gens priaient du matin au soir.
Dans les caches. Hein,
Dans les caches. Et nous, les enfants autour, on était là à écouter. Et c'est ce souvenir qui me reste, et c'est vis-à-vis de tout d'eux et du reste des morts que je respecte ce jour-là.
Depuis
l'âge de 12 ans. Vous savez, j'allais à l'école, mais il n'y a personne qui savait que je faisais
le jeûne.
Personne. Un jour, je suis tombée en syncope, alors ils ont compris que ce qui est arrivé. Mais depuis l'âge de 12 ans, je vais sur mes 85 ans, je continuerai aussi longtemps que je peux.
Vous dites qu'aujourd'hui, la musique ou les chants ou les prières sont votre lien avec la judaïté.
Oui.
Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi être juive, Gisèle Flach? C'est avoir été victime?
Non, parce que je m'en suis bien sortie. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai eu des petits-enfants. Non, être juif, c'est être avec mon peuple, écouter tout ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe en Israël, c'est ça.
Mais c'est une culture, c'est pas une religion.
Non, c'est une culture pour moi. Je ne sais pas prier. Je voudrais, mais je ne sais pas.
Sur la couverture du livre, comme dans le livre d'ailleurs, il y a une question terrible. Parce que c'est, je me suis longtemps demandé pourquoi j'ai survécu.
Oui, surtout aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe et tous les documents, parce que je ne connaissais pas tout ça. Alors je me pose la question. Parce que vous imaginez un enfant de 4, 5, 6, 7 ans courir comme ça, sans papa, sans maman, sans personne? Je dis, c'est pas possible.
Vous dites, en fait, j'ai la réponse à présent, c'est le fait que vous témoignez dans les écoles.
Ah oui, ça oui. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que
vous avez l'impression que vous avez survécu parce que c'était ça votre mission.
Je trouve que j'ai un bon retour des enfants. Ils sont affectueux, ils sont contents et ça me fait beaucoup de bien.
Est-ce qu'ils peuvent imaginer, alors qu'ils ont peut-être juste un peu plus que l'âge que vous aviez à l'époque, est-ce que vous arrivez à leur faire imaginer ce qu'ils auraient pu vivre à votre âge?
Il y en a qui me posent des questions. Il y en a. Surtout, il y en a beaucoup qui me posent des questions si j'ai la haine.
Et votre réponse?
Non. Je n'ai pas la... Je n'oublie pas. Et je ne veux pas oublier. Mais je n'ai pas la haine. Ça ne rapporte rien.
Si un jour, l'un de vos petits-enfants devait dire « Grand-mère, toi, tu n'as pas la haine, mais nous, oui. »
Oui.
« Pour ce qui t'est arrivé, nous, on a la haine. » Qu'est-ce que vous leur diriez?
Je vais leur expliquer.
Que
il ne faut pas. Qu'ils ne doivent pas avoir la haine, que ça leur apporte absolument rien. Au contraire, ils doivent parler, expliquer, pour faire comprendre qu'il y a autre chose que les mauvaises choses. Il faut voir les bonnes choses. D'ailleurs, il y avait très longtemps, quand mon fils était petit, je ne voulais jamais qu'il voie des vilaines choses. Je voulais qu'il voie toujours des belles choses. Une fois, assistante sociale, m'a dit « Madame, c'est pas bien ce que vous faites. Il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses. »
Il doit tout connaître. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la Pologne est encore votre terre à vous, ou est-ce que vous n'y appartenez plus?
Non. J'y étais en 2017. Non. Ça m'a fait plus du mal que du bien.
En fait, cette terre qui a notamment connu Belzec, le premier camp prototype qui a engendré ensuite les camps de la mort.
Où je pense que ma maman
a été assassinée.
Oui.
Cette terre-là ne peut plus être la vôtre.
Non, pas du tout. Non.
Cette terre sous laquelle vous avez vécu, sous laquelle vous avez vécu.
Oui.
Merci pour votre témoignage, Gisèle Flax.
C'est moi qui vous remercie.
Sous terre pour survivre, aux éditions Jourdan, entre 1939 et 1945. 6 années d'une guerre, c'est très long. Et puis c'est autant d'années pour se reconstruire.